Il est 13h ici à Paris, 2h de moins en temps universel.
RFI Midi, Clotilde Dumais.
Bonjour à tous, merci d'écouter RFI. On part pour un peu plus de 3 heures d'informations à travers le monde. En France d'abord, dans quelques minutes, avec l'invité société de Véronique Rigolet, le journaliste Frédéric Ploquin, spécialiste du grand banditisme, avec qui on va évoquer les kidnappings ou les tentatives d'enlèvement qui se multiplient ces dernières semaines en France contre des acteurs du milieu et des crypto-monnaies. En France aussi, et même en Europe, on commence à trembler à l'approche de la finale de Ligue des Champions en football, le PSG face à l'Inter Milan demain. Les supporters italiens sont prêts à défendre leur club.
Parce que c'est la plus grande équipe d'Italie. Je suis fan de l'Inter depuis que je suis petit. C'est l'équipe de mon cœur.
Et en face, les supporters parisiens, eux aussi, veulent croire à la victoire.
Ça serait bien s'ils font un 0-0, ils vont au pénalty. Le suspense jusqu'au bout. Mais je dis 4-2 pour Paris. 4-2, c'est beau, je trouve.
Alors, qui va gagner? Pronostic difficile, hein, mais on verra que l'intelligence artificielle a désigné son vainqueur. Rendez-vous avec Dominique Dezonnet d'environ une demi-heure pour savoir de quel club on parle. À suivre aussi ce témoignage fort de l'historien Jean-Pierre Filiu. Il raconte dans un livre son récent passage dans la bande de Gaza alors que les négociations pour un cessez-le-feu sont toujours dans l'impasse entre Israël et le Hamas.
C'est seulement sur place, malgré toutes les informations, documentations, photos, statistiques que j'avais, que j'ai pu prendre réellement la mesure d'une telle démolition, de tels ravages.
L'historien Jean-Pierre Filiu, interrogé par Arnaud Pontus, se sera écouté en longueur vers 12h15, temps universel. Juste après l'actualité africaine, on sera notamment en République démocratique du Congo. Et puis une dernière demi-heure à partir de 13h TU en Haïti et sur le continent américain. On sera en direct de la Colombie avec Angélica Montes Montoya, docteur en philosophie politique, pour faire le bilan de la présidence de Gustavo Petro à un an de la prochaine élection. Mais d'abord le journal. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
La RDC reste l'une des plus graves crises concernant les personnes déplacées.
Oui, plus de 7 millions, c'est le bilan de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits humains des personnes déplacées. Elle termine un déplacement d'une dizaine de jours dans le pays. Un déplacement suivi par notre correspondante à Kinshasa, Paulina Zidi. Bonjour.
Bonjour.
La rapporteuse spéciale des Nations Unies, Paula Gaviria Bettencourt, tire la sonnette d'alarme. Elle évoque des besoins en augmentation et des financements qui viennent à manquer.
Oui, il s'agit de la première visite en RDC pour Paola Gaviria Bettencourt, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits humains des personnes déplacées. C'est donc rendue dans les zones les plus touchées du pays, comme à l'Est, dans les territoires sous contrôle du groupe armé AFC M23. Elle y a rencontré les différentes autorités, mais aussi et surtout les premières victimes, ces personnes déplacées. Elle décrit une crise importante, mais complexe. Une crise qui s'aggrave avec plus de 7 millions de déplacés dans le pays, une crise dont les origines sont diverses, les conflits bien sûr armés, mais aussi miniers, fonciers et communautaires. À cela s'ajoutent les catastrophes naturelles, notamment les inondations. Résultat, les conditions d'accueil de ces populations sont bien en dessous des standards de la dignité humaine, selon la rapporteuse. Peu de nourriture, peu d'eau, peu d'hygiène et quasiment aucun suivi psychologique. Des programmes qu'elle estime sous-financés alors que les besoins ne font qu'augmenter. Les déplacés sont en plus confrontés aux violences, que ce soit les violences sexuelles, les menaces ou même les assassinats. En recommandation, Paola Gaviria Bettencourt rappelle que s'agissant d'une crise de déplacés internes, c'est le gouvernement congolais qui doit faire sa part. Elle demande néanmoins plus d'appui de la communauté internationale pour les opérations d'urgence, mais aussi en matière d'aide au développement.
Les précisions en direct de Kinshasa de Paulina Zidi.
Dans l'actualité également, Emmanuel Macron qui poursuit sa tournée en Asie du Sud-Est.
Après le Vietnam, l'Indonésie, le chef de l'État français est actuellement à Singapour pour inaugurer le dialogue du Shangri-La, le principal forum de sécurité en Asie-Pacifique qui a lieu tous les ans. On retrouve tout de suite Nicolas Roca sur place. Nicolas, que peut-on attendre du discours du président français devant les ministres de la Défense de la région ?
Eh bien Juliette, depuis le début de ce voyage, Emmanuel Macron trace une seule et même ligne. Contrairement aux États-Unis, la France est un partenaire fiable, respectueux, investi dans l'Indo-Pacifique. Des mots qui seront suivis par le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, présent à Singapour. Il prendra la parole demain. Évidemment, Emmanuel Macron ne fera pas l'impasse sur le grand absent de cette réunion, la Chine, face à Pékin, qui, contrairement aux éditions précédentes, n'a pas envoyé son ministre de la Défense. Il prône ni affrontement, ni soumission, avec un objectif clair, dire aux Asiatiques que malgré le désengagement américain de l'Europe, elle est toujours présente. Ici, des doutes se font entendre tout de même dans les couloirs du Shangri-La sur les capacités du continent à se défendre sans Washington. Et Emmanuel Macron espère convaincre que l'issue de la guerre en Ukraine concerne aussi l'Asie. Au Vietnam, en Indonésie et à Singapour, il a dressé un parallèle constant entre la prédation territoriale chinoise sur Taïwan ou bien en mer de Chine méridionale et la guerre tout azimut de Vladimir Poutine. Enfin, il pourrait aborder, comme il l'a fait cette semaine, la situation humanitaire dramatique et les bombes qui s'abattent sur Gaza.
Les précisions de Nicolas Roca en direct de Singapour.
On vient de le mentionner, Juliette, Emmanuel Macron a déjà fait précédemment des déclarations sur Gaza lors de cette tournée en Asie du Sud-Est.
La reconnaissance d'un État palestinien est un devoir moral et une exigence politique, a-t-il déclaré aujourd'hui en énumérant plusieurs conditions pour franchir le pas, alors qu'une conférence à l'ONU sur le sujet est prévue le 18 juin. L'ONU qui affirme aujourd'hui que Gaza est l'endroit le plus affamé au monde. Ce sont les mots du porte-parole du Bureau des affaires humanitaires. 100% de la population est menacée de famine, a-t-il déclaré, ce qui réfute l'affirmation du contraire par les autorités israéliennes.
Et toujours à Gaza, la prise de contrôle de l'aide humanitaire par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou via une organisation américaine a viré au fiasco.
Des mouvements de foule, des Gazaouis entassés pendant des heures derrière des grilles sous un soleil de plomb, et ce pour ramasser des miettes de denrées alimentaires que la Fondation humanitaire pour Gaza daignerait leur accorder. Les Gazaouis se disent humiliés, écœurés et racontent, c'est un reportage tourné à Gaza dans la zone d'Al-Mawassi, à l'ouest de Ran Younes, par Rami Al-Megari avec Alice Roussard.
Lorsqu'il a appris qu'il y avait une distribution d'aide alimentaire, Hani Chat, déplacé Gazaoui dans la zone d'Al-Mawassi, n'a pas vraiment hésité. Le riz coûte trop cher, la farine manque, même les gens qui ont des moyens financiers ne peuvent plus rien se payer, dit-il.
Nous avons réussi à entrer dans la zone avec difficulté et puis nous sommes passés. Mais la situation était dangereuse car il y avait un char et ça nous faisait peur. Il s'approchait, il bloquait la route, les gens s'arrêtaient, puis ils repartaient et les gens avançaient de nouveau.
Hani décrit les barrières, les panneaux, interdiction de s'approcher.
Celui qui les dépassait se faisait tirer dessus. Quelqu'un a dépassé d'un mètre et il s'est pris une balle.
Tout ça pour récupérer des cartons avec de la farine, de l'huile des pâtes, des fèves, un peu de sel, parfois du halawé, cette pâte de sésame. Tamer Al-Shaer, un autre déplacé, a réussi à prendre un colis malgré le chaos total.
Mais en réalité, ce n'est même pas assez pour une semaine. Avec une famille de 5 personnes, ça ne fera que 3 ou 4 jours.
Et alors que l'intégralité de la population de Gaza fait face au risque de famine, certains désespérés par le manque de nourriture sont gourmands, ajoute Wassim Lahem, lui aussi était sur place.
Il y en a qui ont pris 20 cartons de 30 kilos pour les revendre. Que Dieu les punisse, ils font grimper les prix pour tout le monde. À mes yeux, c'était bien mieux avant avec les ONG. Là, c'est du gâchis, c'est vraiment prendre le risque de mourir pour rien. On a marché environ 4 kilomètres, c'était exténuant. Et on a fait ça seulement pour avoir de quoi manger et boire.
Wassim précise que rien que sur le chemin du retour, il a vu 4 morts au milieu de la route.
Le reportage d'Alice Roussard avec Rami Al-Megari. Les déclarations des autorités israéliennes sur Gaza se multiplient.
Le ministre israélien d'extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a déclaré, je cite, qu'il était temps d'entrer avec toute la force nécessaire à Gaza pour détruire et tuer entièrement le Hamas. Il affirme que le Hamas a rejeté, je cite, une nouvelle fois la proposition d'accord acceptée par Israël. Factuellement, le Hamas n'a pas encore refusé la proposition américaine, mais le mouvement islamiste palestinien a indiqué hier soir qu'elle ne répondait pas aux demandes du Hamas. Les États-Unis, à l'origine de cette proposition d'accord, n'ont pas dévoilé publiquement les termes exacts de cette feuille de route.
L'Ukraine engagée vers de nouveaux pourparlers, mais sous conditions.
Kiev se dit prête à participer à de nouveaux pourparlers proposés par la Russie. Ça se passera à Istanbul lundi prochain. Le 16 mai dernier, les deux pays avaient déjà suivi un cycle de négociations sous pression américaine, mais ils n'ont pas abouti. Pour ce nouveau cycle, l'Ukraine a donc demandé à Moscou de lui transmettre un document détaillant ses conditions pour une paix durable. Depuis Singapour, Emmanuel Macron a également affirmé que la décision ou non de sanctionner la Russie si elle refusait un cessez-le-feu en Ukraine était un test de crédibilité pour les États-Unis de Donald Trump.
Et du côté de Washington, justement, le feuilleton de Donald Trump et ses taxes douanières continue.
La Cour d'appel suspend la décision qui avait été prise par le tribunal de commerce international des États-Unis hier. La justice américaine avait donné 10 jours au gouvernement de Donald Trump pour lever les droits de douane sur les importations de certains produits. Donald Trump avait réagi en dénonçant, je cite, des juges gauchistes qui sapent son offensive douanière. Autre mesure qui fait parler aux États-Unis, ces derniers jours, l'administration Trump a cherché à interdire à tous les étudiants étrangers d'étudier à Harvard, ce qui expose les États-Unis au risque d'une importante fuite de cerveau. Un virage à 180 degrés de la part du président qui avait pendant la campagne proposé de délivrer automatiquement des cartes de résident américain aux étudiants étrangers après leur diplôme. Il déplorait qu'ils quittent le pays pour créer des entreprises prospères en Chine et en Inde. Avec ce volte-face, le secrétaire d'État Marco Rubio a notamment promis de révoquer avec fermeté les visas des étudiants en provenance de Chine. Dans le reste de l'actualité en France, à compter du 1er juillet, la cigarette sera persona non grata. Plage, parc, près des écoles, c'est terminé. Le gouvernement va mettre en œuvre l'interdiction promise fin 2023. Le non-respect de l'interdiction pourra engendrer une amende de 135 euros, a précisé Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé, à nos confrères de Ouest-France.
Et puis on termine avec Roland Garros, Juliette.
Je sais que vous suivez Roland Garros avec attention, eh Clotilde, oui. Et ça tombe bien, et RFI aussi. C'est le début du troisième tour aujourd'hui sous les courts ensoleillés de Roland Garros avec un premier résultat, l'élimination de la Canadienne d'origine congolaise Victoria Boko. Eric Memrut.
Oui, la belle aventure de la joueuse de 18 ans s'est achevée avec les honneurs, avec une défaite face à la championne olympique en titre, la chinoise Qin Wang Zheng, qui s'est imposée sur le score de 6-3, 6-4. Victoria Boko, loin d'être ridicule, elle qui dispute à Paris le tout premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière chez les seniors, toujours très agressive. Elle a ainsi pris à deux reprises le service de l'expérimentée 8e joueuse mondiale. Son beau parcours s'arrête donc au 3e tour à son 6e match, puisqu'elle s'était extraite des qualifications. Un excellent tournoi qui confirme son statut de nouvelle pépite du circuit. Elle qui avait pris un set à l'américaine Coco Gauff à Rome tout récemment. Bref, on la reverra, sans nul doute, Victoria Mboko, dont les deux parents sont nés en République démocratique du Congo. Elle fait d'ores et déjà un bond au classement mondial en s'installant dans le top 100. Elle qui était 350e en début d'année. Tout à l'heure, Quentin Alice, l'un des deux rescapés français du tableau masculin avec Arthur Fils, tentera de se qualifier pour le premier 8e de finale en Grand Chelem de sa carrière. Il affrontera le jeune Danois 10e à l'ATP, Holger Rune. Ça sera juste après le match qui est en cours sur le central. Il oppose Arina Sabalenka face à Olga Danilovic, la numéro 1 mondiale biélorusse qui mène 6-2, 3 partout dans la deuxième manche.
Et on va suivre ça de près avec vous, Eric Mamrut, en direct de Roland-Garros. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.
Et merci à vous, Juliette Pietraszewski. On vous retrouve dans 2 heures pour un nouveau journal.
RFI, la France à midi.
Les Parisiens se préparent pour le match sans doute le plus important de leur saison, le PSG, à la veille d'une finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Ce sera demain soir à Munich. En attendant, un tout autre événement au Stade de France, la journée de l'évasion organisée chaque année par l'association Premier de Cordée pour les enfants hospitalisés ou porteurs de handicap. La 11e édition s'est déroulée mercredi avec pour thème les super-héros. Les enfants ont pu participer à des activités et surtout, ils ont pu rencontrer des championnes et des champions ayant notamment participé aux Jeux Olympiques de Paris l'an dernier. C'est un reportage d'Aram Beng.
Ils sont contents parce que ça leur fait sortir de l'hôpital.
Aurélie, infirmière au service de pédiatrie à l'hôpital Raymond Poincaré en région parisienne, accompagne des enfants lourdement handicapés pour profiter de la journée évasion.
Ça leur fait voir un autre environnement et puis là c'est le Stade de France. Ils sont contents, quoi. Ils sont épanouis de cette journée.
Yousra Laghi, 12 ans, est en fauteuil roulant. Elle vient juste de remporter une partie de tennis. La belle prestation des champions paralympiques lors des JO de Paris 2024 a fait son effet chez elle.
Oui, vraiment. Et ils sont très très forts malgré leur handicap et c'est vraiment bien.
T'as envie de faire comme eux ?
Oui, peut-être j'y participerai à l'avenir.
Fanny Merar, éducatrice spécialisée, accompagne Yousra et ses camarades venus d'Aulnay-sous-Bois. Pour elle, c'est important que des enfants malades puissent profiter de la journée évasion.
Oui, très important pour qu'ils puissent se sentir au même niveau que tous les autres joueurs et qu'ils puissent découvrir des sports qui sont adaptés à leurs besoins et pour qu'ils puissent un petit peu penser à autre chose que le quotidien. Et honnêtement, c'est un plaisir de les voir s'amuser, de sourire.
Au stand de football, des enfants ont eu la chance de jouer avec Arsène Wenger, ancien footballeur professionnel et parrain de l'événement.
C'est beau de voir leur bonheur et de les voir jouer, de pouvoir s'éclater ensemble. Et eux, ce sont les héros du jour parce qu'ils sont face très jeunes souvent à la maladie. Et de pouvoir en sortir, ils ont un esprit de combattant extraordinaire.
Pour le champion paralympique Kylian Portal, médaillé en natation aux JO de Paris 2024, il est important d'être là pour la transmission.
Je pense que c'est aussi dans notre devoir de transmettre aux jeunes, aux enfants qui ont des capacités réduites ou non. Hein. Voilà, y a plein de jeunes qui vont, je pense, avoir envie de continuer dans des sports. Ils vont découvrir des sports et je pense qu'il y en a certains qui vont vouloir s'inscrire, que ce soit du foot, du tennis de table, de l'escalade.
Membre de l'association Premier de Cordée, docteur Mathieu Pélanche est pédiatre et médecin du sport. Cette journée évasion peut, selon lui, créer des vocations.
On parle souvent en fait, du sport handicap, on en a encore plus parlé depuis les JO, mais là on sait que forcément ça peut créer des vocations chez certains jeunes qui, à l'inverse de se sentir pas capable, là vont se sentir capables de dépasser leurs limites.
Une impulsion qu'avaient déjà donné les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et qui perdure.
Le reportage d'Aram Beng.
RFI à Paris, 89 FM.
Et comme chaque vendredi, l'invité société sur RFI, le journaliste Frédéric Ploquin, spécialiste de la criminalité organisée, co-auteur de ce livre, Braqueur, mercenaire, aventurier de l'OAS au grand banditisme, c'est aux éditions du Nouveau Monde. Frédéric Ploquin répond à vos questions, Véronique Rigolet.
Bonjour Frédéric Ploquin.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RFI. Alors que se multiplient ces derniers mois en France les affaires d'enlèvement et de séquestration dans le milieu des crypto-monnaies, avec même des actes de torture, 4 actions brutales en 5 mois. La dernière tentative en date, c'était mardi dernier à Nantes, heureusement déjouée par les policiers de la BRI. Et on a en tête, Frédéric Ploquin, bien ces images incroyables de cette brutale tentative d'enlèvement. C'était en pleine rue, en plein jour à Paris, il y a tout juste 2 semaines. Comment vous expliquez ce phénomène, ce retour à la violence des kidnappings?
Effectivement, ce sont des scènes qu'on n'avait pas vues depuis une quarantaine d'années, en tout cas en pleine rue. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs que dans le monde du trafic de stupéfiants, les enlèvements sont sont monnaie courante, on va dire, en France, sans que ça n'attire vraiment l'attention des pouvoirs publics, parce qu'en fait, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de plaignant, évidemment, puisque les trafiquants de stupéfiants s'enlèvent entre eux. Voilà, ils s'enlèvent entre eux quand il y a un problème de dette, quand il y a un problème de vol, quand il y a un problème de concurrence, ils s'enlèvent, ils se torturent, ils s'amènent à la cave, ils se cassent les genoux et parfois même ils se donnent la mort. Donc il y a ce que je veux dire, c'est que l'enlèvement est monnaie courante dans cette génération, mais un peu sous les radars. On les comptabilise pas, on sait pas combien il y en a. Et tout d'un coup, cette méthode assez barbare consistant à enlever les individus pour obtenir de ce qu'on souhaite en les menaçant de mort, cette méthode tout d'un coup surgit, déborde complètement et concerne finalement vous et moi, on va dire des personnes qui n'ont strictement rien demandé, rien à voir avec le milieu ou avec le banditisme en général, qui sont des entrepreneurs en crypto-monnaie. Et donc ça se passe tout d'un coup en pleine ville et non pas dans des quartiers, on va dire, un peu coupés de la République, mais en pleine cité, en pleine ville, et c'est filmé et du coup ça nous arrive et effectivement on se dit qu'est-ce qui se passe?
Frédéric Ploquin, ces enlèvements dans les crypto-monnaies, est-ce qu'elles sont liées au narcotrafic ou est-ce qu'elles ne reprennent que les méthodes en cours dans ce milieu-là du narcotrafic?
L'impression que j'ai, c'est qu'actuellement, les narcotrafiquants qui forment le cœur du crime organisé en France sont peut-être un peu à l'étroit sur leur territoire et cherchent de nouvelles marges de manœuvre. Donc on a eu à Marseille, par exemple, des tentatives de raquettes de rappeurs connus. On a eu aussi des tentatives de raquettes auprès de footballeurs. Donc ils cherchent des marges de progression et il y a parmi eux des individus qui ont envie de revenir au classique, c'est-à-dire au braquage, au vol et à l'enlèvement. Alors les braquages, ça devient un peu compliqué, disons que pour attaquer un fourgon blindé, faut être quand même très très professionnel. Les bijouteries, ça se fait encore, mais il n'y a plus beaucoup d'espèces, donc il y a une espèce de nouvelle fenêtre de tir, si j'ose dire, qui s'ouvre pour cette génération, qui est la crypto-monnaie, qu'ils connaissent bien, qu'ils pratiquent probablement pour une partie d'entre eux pour le blanchiment de l'argent, et qui les fait complètement fantasmer, c'est-à-dire qu'on peut enlever quelqu'un, il n'y a plus de... On ne va pas lui demander d'emmener sous un pont une valise avec 1 million d'euros.
C'est oui, il suffit juste d'avoir les codes et puis on peut faire main basse sur les crypto-monnaies.
On va dire que la crypto-monnaie, l'informatisation de l'argent d'une certaine manière, ouvre de nouvelles perspectives aux braqueurs qui se disent bah, « là, on va peut-être arriver à faire dans la rançon intraçable ». C'est un peu leur rêve, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs gagné d'avance, puisque la police judiciaire a l'air de s'adapter extrêmement rapidement.
Oui, alors ce qui frappe justement dans les 25 interpellations réalisées par la police, dont d'ailleurs qui sont d'ailleurs aujourd'hui présentées devant un juge d'instruction, il y a également 6 suspects déjà mis en examen. Ce qui frappe, bien, c'est leur très jeune âge, moins de 25 ans. Il y a au moins 2 mineurs parmi eux. C'est quoi ? C'est des petites mains ? C'est de la petite délinquance ?
Ça nous ramène aussi au trafic de stupéfiants. C'est-à-dire qu'on a dans le trafic de stupéfiants des cerveaux, souvent à l'étranger, ce qui est peut-être le cas dans ces affaires d'enlèvement, et des petites mains qui sont envoyées un peu à l'abattoir, comme ça, pour faire les tâches secondaires, qui sont très exposées. Donc, dans le trafic de stupéfiants, là, je pense aux guetteurs plutôt, à ceux qui font les petites mains sur le terrain et qui sont en première ligne, qu'on envoie au charbon, au casse-pipe, si j'ose dire. Et c'est un peu la même chose là, c'est-à-dire que il doit y avoir le même système de recrutement par les réseaux sociaux, d'individus à qui on promet un billet. Alors, ça peut aller du tueur à gages, donc pour tuer quelqu'un, puisque ça existe aujourd'hui en France.
Oui, recruter sur les réseaux sociaux. Hein, oui.
Voilà, absolument. Et jusqu'à jouer les petites mains pour garder éventuellement quelqu'un qui a été kidnappé dans une maison. Donc ça, effectivement, ce rajeunissement est perceptible dans tout l'univers de la délinquance. Il frappe les policiers depuis déjà une dizaine d'années. À tous les niveaux, à toutes les strates, on a des individus de plus en plus jeunes qui se retrouvent impliqués dans des affaires violentes.
Et c'est ça qui explique en partie leur jeunesse, ce mélange tout à la fois de professionnalisme, en tout cas sur les réseaux sociaux pour trouver leurs victimes, mais également d'amateurisme. Hein. On a vu les assaillants du 13 mai à Paris se faire chasser.
Absolument. C'est frappant, c'est-à-dire ce mélange, comme vous dites, d'amateurisme et de professionnalisme est frappant, parce que il faut être assez professionnel pour détecter les cibles, faire des repérages. C'est pas, tiens, je vois une belle vitrine, je la casse et je prends ce qu'il y a dedans. C'est pas ça, c'est plus compliqué. Donc il y a une préparation, de la surveillance, du bon renseignement, savoir qui est qui, si c'est l'épouse d'eux, si on veut enlever l'épouse, si on veut enlever l'enfant. Je veux dire, faut approcher sa cible, faut faire des filatures, faut savoir où ils sont, quelles sont leurs habitudes. Donc ça, c'est le côté professionnel. Et puis de l'autre côté, effectivement, on a le recrutement de petites mains dont on n'a pas forcément vérifié le CV et qui sont pas forcément très au point pour passer à l'acte. Mais c'est vraiment à l'image de cette génération. On n'est pas parce que j'ai pas dit encore, mais c'est vrai que ça nous rappelle quand même, moi qui suis le grand banditisme depuis une quarantaine d'années en France, ça nous rappelle quand même l'époque de Jacques Mérine. C'est-à-dire que à cette époque-là, dans les années 70, je rappelle que la France était le théâtre d'environ un enlèvement par mois, mais ils ciblaient, et c'était des grands voyous qui ciblaient des patrons, des banquiers, des hauts responsables, et qui les séquestraient jusqu'à, et qui, comme ces individus qui attaquent les entrepreneurs de crypto-monnaie, coupaient le petit doigt en guise de menace.
Ça, ouais, ça rappelle le baron en pain, notamment.
Ça rappelle le baron en pain, exactement. Ouais.
Mais les voyous suivent toujours cette piste de l'argent, hein. Avant, c'était en petite coupure dans des valises. Maintenant, c'est le bitcoin, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est la crypto-monnaie ouvre vraiment des nouvelles opportunités, on va dire. En fait, les voyous, il faut pas croire. La criminalité est toujours très réactive, toujours très, s'adapte toujours très vite aux transformations et essaie d'avoir toujours un train d'avance sur la police et ceux qui les traquent.
Alors, malgré leur jeune âge, hein, qu'on évoquait, ce qui choque, c'est justement cette extrême violence, ce fameux doigt coupé pour l'une des victimes. Il y a également des menaces de torture à la perceuse. C'est, on pourrait dire, d'ailleurs, la même violence qu'on voit dans les séries mafieuses sur Netflix. Il y a une source d'inspiration cinématographique, et tout ça reste très inquiétant.
C'est toujours, on ne sait jamais qui est à l'origine de quoi. C'est-à-dire qu'on a des grands braqueurs qui disent, moi, j'ai appris mon boulot en regardant des films à télévision, au cinéma, genre Hit ou des choses comme ça. Et en même temps, quand vous vous intéressez à la création de ce film, vous vous rendez compte qu'ils se sont inspirés de faits réels. Donc, on ne sait jamais. Moi, je suis plutôt dans l'idée que les faits réels inspirent le cinéma et les romanciers, et qu'après, ça fasse une espèce d'effet de culbute, de propagation à travers ça, mais le réel est toujours beaucoup plus puissant, et des histoires de perceuses dans les genoux, moi j'en ai raconté dans des bouquins il y a déjà 20 ans, c'est-à-dire que dans le milieu traditionnel du grand banditisme, quand vous vouliez obtenir de quelqu'un qu'il change de camp, ou qu'il vous rejoigne votre bande, ou plutôt qui crache un paquet d'argent. Effectivement, c'était une méthode assez éprouvée, on va dire, celle de la perceuse. Mmh. Et là, ça demande la participation d'individus qui n'ont aucun scrupule, qui ont un sang-froid à toute épreuve, qui ont l'habitude de distribuer la violence et qui sont prêts à ce que finalement la personne qu'ils ont enlevée meure entre leurs mains, parce que c'est quand même ça le risque.
Voilà, et c'est extrêmement inquiétant. Je vous remercie beaucoup, Frédéric Ploquin, journaliste spécialiste de la criminalité organisée, co-auteur avec Jean-Louis Riza de Braqueur, mercenaire aventurier de l'OAS au grand banditisme, et c'est paru aux éditions Nouveau Monde. Bonne journée à vous.
Merci à vous, bonne journée. Au revoir.
Et une interview menée par Véronique Rigolet qui est à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Dans quelques minutes, on passera à l'actualité sur le continent européen. Et puis n'oubliez pas, à 19h40 en temps universel ce soir, on répond à vos questions sur le travail de la rédaction. Pourquoi RFI dit ça ? C'est avec vous, Juliette Rangeval. Et cette semaine, vous nous emmenez dans l'univers numérique de RFI sur les réseaux sociaux.
C'est un des lieux du débat, de l'engagement, et bien sûr, les journalistes et les animateurs de RFI y sont présents. Vous-même, vous avez peut-être un compte Blue Sky, X, Instagram ou Facebook, vous y publiez du contenu, mais ce contenu est-il complètement privé ? Jean-Pierre Constantin, le médiateur de France Média Monde, est souvent saisi de cette question.
Est-ce que c'est la vie privée ? Est-ce que c'est la vie personnelle ? Est-ce que c'est la vie publique ? On peut se poser la question. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le public, lui, ne fait pas la différence. C'est-à-dire que le public, lui, quand il tombe sur le compte d'un journaliste ou d'un animateur de RFI, pour lui, c'est un journaliste ou un animateur de RFI.
Jean-Pierre Constantin, le médiateur de France Média Monde, un groupe qui réunit RFI, Monte Carlo Doualia et France 24.
Et puis vous allez aussi revenir, Juliette, sur la manière dont RFI fera vivre aux auditeurs demain la finale de la Ligue des Champions.
Commentaires, coulisses à côté, la rédaction est mobilisée pour vous faire vivre cette rencontre lors d'une soirée spéciale. Cédric De Oliveira sera à Munich où se déroule la finale et je lui ai demandé si quand on était un journaliste français, qu'on travaillait pour RFI et qu'on suivait le football comme il le suit, on arrivait à garder toute son objectivité ou si on laissait parler son cœur. Bref, est-ce qu'il soutient le PSG ?
C'est vrai qu'il y a une accointance particulière, d'autant que il faut dire aux auditeurs de RFI que nous sommes à Paris, en tout cas proche de Paris. Donc c'est vrai que je connais beaucoup le Parc des Princes, je connais beaucoup les acteurs du club, mais c'est vrai que il y a quelque chose de particulier. Après, c'est vrai que quand vous vous retrouvez à couvrir un match, vous êtes un petit peu rattrapé par la quête, en tout cas, d'être le plus objectif possible. Voilà, ça se voit un petit peu moins dans le commentaire parce que justement, vous êtes dans le direct, il y a des émotions et vous êtes porté par le public parfois qui vous transmet des choses, notamment sur un but au Parc des Princes. Mais dans le reportage, par exemple, on essaye un petit peu plus d'être objectif et notamment dans l'analyse aussi des enjeux du match ou voilà ce genre de choses.
Alors, je ne sais pas quelle équipe vous soutenez, vous, le PSG ou l'Inter Milan, mais la soirée spéciale, c'est demain samedi à 19h, temps universel. Et pourquoi RFI dit ça, c'est ce soir.
Merci beaucoup, Julien. La tranche va le rendez-vous 19h40, temps universel. Et on va reparler de ce match PSG Inter Milan dans un instant sur RFI.
RFI, La sélection du mois.
Maureen.
Don't bend your back. Bend your back, pussy. Move your fat. Open your fat.
Wade Corbeau.
RFI Musique. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
À 48 heures de son concert au Casino de Paris, Smarty sera notre invité. Le rappeur star du Burkina Faso est aussi un homme engagé dans la vie, pour les droits de l'enfant, pour l'accès à la culture, pour la démocratie. Il nous parlera de ses combats et de ce concert qui se prépare.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair,
du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.